en dire et des nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. On a souvent pu le constater dans cette émission, la bande dessinée est aujourd'hui un foyer de création d'une diversité et d'une richesse exceptionnelle. L'album dont nous allons parler aujourd'hui l'est peut-être plus encore que d'habitude. Un rythme trépidant, un casting choral peuplé de vraies gueules de cinéma aux personnalités complexes qui dégagent une large palette d'émotions et de sentiments, une grande variété de décors qui nous font voyager de Nantes à Bombay en passant par le Sahara algérien. Une histoire menée tambour battant qui mêle robots géants, grands mafieux, hommes de main et petites frappes, périls écologiques et références politico-historiques ou pseudo-historiques, en même temps profondément ancrées dans la planète mondialisée. Un récit d'aventure palpitant qui tient de l'Uchronie et du récit de genre et une aventure éditoriale hors norme, puisque pas moins de 4 auteurs sont crédités en couverture. Le dernier atlas, signé Fabien Venman, Gwen de Bonneval, Hervé Tancrel et Fred Blanchard. Le tome 1 est paru aux éditions Dupuis et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Fabien Venman.
Bonjour.
Bonjour Hervé Tancrel.
Bonjour.
Une BD à 4 mains, enfin à 8 mains, puisque chacun d'entre vous en a 2, et même 10, hein, si on compte la coloriste Laurence Croix, dont le nom n'est pas cité sur la couverture. C'est quand même pas banal, hein. Là on est plus dans la TPE, finalement, que dans le binôme, Fabien Venman.
Non, c'est vrai que c'est pas banal, et c'est vraiment le type de projet qui a amené à cette configuration, parce qu'on voulait assez rapidement, avec Gwen qui a été très vite co-scénariste sur cette idée que j'avais eue il y a une dizaine d'années, on avait cette envie d'un récit fleuve et d'un récit choral, comme vous l'avez très bien dit, et pour avoir cette quantité-là, cette masse-là, il fallait une équipe un peu nombreuse, finalement à la manière dont certains mangaka peuvent procéder au Japon depuis bien longtemps en faisant des studios, ou même des fois les Américains, quand ils délèguent par exemple l'ancrage à un autre dessinateur, avec le risque parfois de sentir que c'est fabriqué par des gens qui sont plus ou moins impliqués. La chance qu'on a eue ici, c'est qu'on est 5 auteurs, autrices, pour ajouter effectivement Laurence Croix, qui nous connaissons depuis longtemps, avec une certaine expérience de travail, ça fait souvent une vingtaine d'années qu'on est dans le métier, et qui nous entendons extrêmement bien. Donc ça a fait...
Ça c'est important, parce qu'on se dit quand même, Hervé Tancrel, que travailler à 2, c'est pas toujours évident, hein, quand on est en binôme, travailler à 4 ou à 5, ça doit être quand même encore plus compliqué. Comment vous avez fonctionné? Il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a des exécutants?
Le chef, c'est moi, ça c'est sûr, tout le monde l'aura compris. Et ensuite, les sous-traitants, donc Fabien surtout. Non, effectivement, mais ce qui est bien, c'est déjà, on se connaît vraiment, vraiment depuis longtemps. On a, pour certains, travaillé déjà ensemble, plus ou moins. Fabien avait travaillé avec Fred Blanchard pour Spirou.
Et avec Gwen.
Moi, j'ai travaillé avec Gwen aussi. Donc voilà, déjà, ça crée quelque chose. Et puis, ça fait longtemps qu'on fait ça, tous, hein, pour la plupart, une vingtaine d'années. Donc on a aussi, peut-être mis nos égos de côté un peu plus d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un travail qui à la fois très fluide entre nous.
Oui, mais qui tranche quand il y a un désaccord, parce que vous n'allez pas me dire que vous étiez sur la même longueur d'onde de A jusqu'à Z, c'est pas possible.
Je pense que pour chaque binôme, au niveau du scénario, donc je suis, disons, scénariste principal, parce que j'étais à l'origine du projet et Gwen m'assiste au scénario, je finirai par trancher. Dans le cas du binôme dessin, c'est Hervé qui sera le dessinateur principal et qui finira par trancher vis-à-vis de Fred. Maintenant, en réalité, ça se passe rarement comme ça. On se connaît tellement bien que ce qu'on veut, c'est pas justement prouver qu'on aurait le pouvoir, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas convaincu par mon idée ou par mon dessin? On discute. Et en général, la solution, elle apparaît d'elle-même. Et c'est ça qui est assez génial de bien connaître quelqu'un. Je pense à Gwen dans le cas présent. C'est que s'il me dit, je crois pas à cette idée, quand je lui propose quelque chose, je vais même pas essayer d'argumenter parce que je sais que s'il dit non, c'est que quelque chose, quelque part, bloque, et je lui fais confiance. Et je cherche autre chose, et ça va à une vitesse hallucinante.
Alors, cet album, c'est pas un cadeau pour un journaliste, parce que votre histoire, Fabien Venman, elle est tellement riche, tellement dense, qu'en préparant cette interview, je me suis longuement demandé sur quel fil tirer en premier.
Vous l'avez bien résumé au début, pourtant.
Hein. Voilà, il a bien fallu en choisir un, quand même. Mais avant de vous faire découvrir, je voudrais que vous nous expliquiez, là, en quelques mots, à quoi ça ressemble, en vrai, physiquement, le scénario d'un album de bande dessinée comme celui-ci. Ça tient plus du bottin que du ticket de métro, j'imagine.
Plus, oui, parce que c'est 200 pages, donc par...
Le scénario, c'est 200 pages.
Par album, oui. J'essaie de faire en sorte que chaque page de scénario corresponde à une page de dessin.
C'est pas un storyboard.
C'est pas un storyboard parce que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé en termes de dessin préféraient que je ne me mêle pas de la mise en scène et du storyboard. Je serais éventuellement capable de le faire. Ça m'amuse pas, mais je pourrais le faire. Mais c'est très rarement demandé. Dans le cas présent, en plus, quand je travaille avec des gens comme Hervé et Fred qui sont des vieux routards et qui font un travail sublime, je vais pas me mêler de ça. Ça serait vraiment comme le type qui fait un tag sur un dessin sur la Joconde, quoi. Voilà. Ouais. Ça donne un peu cette impression. Par contre, avec Gwen, on essaie vraiment de livrer quelque chose qui ressemble, c'est un document Word de 200 pages, qui soit le plus lisible et clair possible, avec juste ce qu'il faut de détails pour permettre aux dessinateurs de s'amuser et pas un foisonnement de détails.
Mais donc avec des descriptions des décors, des flèches entre les différents personnages, on imagine quand même des schémas, parce que c'est une intrigue quand même pas évidente.
Non, en fait, on essaie de faire en sorte, comme le lecteur et la lectrice n'auront pas ces schémas explicatifs, si Fred et Hervé ne comprennent pas le scénario, c'est qu'on aura perdu le lecteur. Donc éventuellement, il peut m'arriver de faire un crobar pour dire, bon, pour cette scène spécifique qui est très compliquée, voilà ce que j'imaginais. En moyenne, c'est vraiment le scénario qui doit se défendre tout seul. Et si Hervé, qui est un des premiers lecteurs du scénario, en fait, me dit, bah écoute, là, non, je comprends pas ce qui se passe. Mais en général, ça arrive peu, parce que Gwen m'a déjà fait ce travail en disant, tiens, tu me parles de ça, mais je n'ai pas compris tel enjeu. Donc finalement, on est quatre têtes pensantes là-dessus, déjà à nous renvoyer la patate en disant ça c'est pas clair, ça j'ai pensé que Fred va plus parler du robot parce qu'il a été designer du robot, Hervé de la mise en scène et des personnages, Gwen est très attentif au background historique. Oui. Il se trouve qu'il a un rapport spécifique au général de Gaulle parce que son grand-père était l'aide de camp du général de Gaulle, ça c'est amusant.
Mais ça crée une vigilance. Il y a une vraie vigilance entre nous quatre, comme ça, où au dernier moment, moi, quand j'ai là, par exemple, j'ai commencé à travailler sur un des épisodes du deuxième volume, et j'ai repéré un truc qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas, que ni Gwen, ni Fred...
Une énorme erreur de débutant, soit dit en passant.
Ni Fabien n'avait remarqué, et effectivement, voilà, je leur ai dit, et puis tout de suite, ça tend vers une précision assez forte.
Mais donc, vous êtes déjà donc dans le travail sur le tome 2, il y en aura 3. Oui. Quand vous êtes parti, vous saviez très précisément où vous alliez du début à la fin, l'autoroute était vraiment balisée, ou bien en cours de travail, on peut se laisser surprendre par tel ou tel personnage, on peut avoir envie de développer telle ou telle intrigue secondaire, ou tout est vraiment très balisé.
C'est pas. Alors, je connaissais les grandes lignes et il y avait déjà eu plusieurs épisodes déjà de décrits par Fabien et Gwen, mais moi je suis vraiment le premier lecteur, et ça c'est super, et Fred aussi d'ailleurs. On reçoit les épisodes au fur et à mesure, donc le premier tome tout n'était pas écrit, donc j'ai appris certains personnages. Il allait se passer ça, et pour le tome 2 c'est pareil, et encore plus pour le tome 3.
Donc ça peut encore évoluer, Fabien Bellman, l'intrigue.
En partie, c'est-à-dire qu'en fait on a ce qui était important vu la taille de ce chantier, parce que c'est quelque chose, moi j'ai jamais autant écrit de ma vie sur une seule œuvre en fait d'un seul coup. Peut-être qu'à force sur la série seule, j'ai écrit beaucoup, mais c'est des 46 pages. Là, c'est d'un seul coup 200 pages par album. Il fallait avec Gwen qu'on verrouille certains points. Par exemple, pour évoquer un tout petit peu l'histoire, il est donc question d'une une France qui a l'air de ressembler à notre France actuelle, mais en réalité qui est légèrement uchronique.
Bon, l'histoire donc, commence en 2018.
Ça commence en 2018, et simplement on se rend compte au fur et à mesure du récit que dans ce récit uchronique, il y a des robots géants qui ont été fabriqués sous De Gaulle dans les années 50. Et en 2018, il y a une espèce de menace qui apparaît dans le parc de Tassili en Algérie, qui pourrait peut-être être de type extraterrestre. Bon, par exemple... Cette menace et pourquoi elle est là et c'est son objectif, c'est des choses qu'on a vraiment fixées avec Gwen, parce qu'il s'agissait pas qu'on improvise en cours de route. Par contre, et je rebondis sur ce qu'a dit Hervé, à mon sens, un des très très grands talents de Hervé, c'est la caractérisation des personnages. Il a une façon de faire vivre les personnages qui est assez proche, si on devait faire un parallèle, avec le moment où une série est lancée à la télé et qu'on découvre qu'un comédien emporte l'adhésion alors qu'il avait au départ un rôle secondaire. Dès qu'on a vu avec Gwen les premières pages de Hervé apparaître, on s'est dit waouh, mais en fait ces personnages ils surexistent, mais ils sont trop présents.
C'est clair, et c'est vrai que c'est frappant Hervé Tancrel, parce que les personnages ont effectivement une présence qui fait penser à la présence d'un personnage de cinéma ou effectivement de série télé. Oui. Vos personnages, ils ont tous des gueules, quoi. C'est incroyable, Hervé Tancrel, ce sont des acteurs, quoi, que vous avez dessinés.
C'est vrai, oui, enfin je le reconnais. S'il y a bien un truc sur lequel je ne suis pas trop modeste, c'est sur ce truc-là. J'avoue que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me fascine. Je crois que j'observe toujours les gens aussi au quotidien. C'est quelque chose que j'ai envie de retrouver quand je dessine et quand je fais jouer ces personnages. J'ai envie qu'ils soient crédibles à 100%. Quoi.
Alors, par exemple, le personnage principal, je ne sais pas si c'est le mot héros. Est-ce que le mot héros est
ou anti-héros
ou anti-héros, oui. Voilà, c'est effectivement une question qu'on peut se poser. C'est le personnage d'Ismaël Taïeb. C'est lui qu'on découvre, clope au bec, les yeux vers le ciel sur la couverture de l'album. Et c'est vrai qu'il faut, comme c'est le personnage principal, il faut quand même que le lecteur se sente proche de lui, pas forcément qu'il s'identifie à lui, mais enfin, il faut quand même lui donner envie au lecteur de suivre l'histoire. Comment est-ce que vous l'avez imaginé graphiquement parlant, Hervé Tancrel, ce personnage ?
Eh bien, j'avais des infos, hein, le fait que donc Ismaël Taïeb avait entre 40 et 50 ans, français d'origine algérienne, gangster évidemment. Et puis voilà, je crois que ça s'arrêtait à peu près là. Donc moi j'ai crobardé à partir de ça, et je voulais que ça soit quand même à la fois un bel homme et fatigué. Donc on sent qu'il est
qu'il a vécu. Voilà. Oui, je précise au passage que quand Hervé dit gangster, évidemment, c'est au vu du scénario qui montrait que c'était un héros gangster, c'est pas parce qu'il est d'origine algérienne.
Vous avez raison, par les temps qui courent, mieux vaut le préciser.
Ceux qui connaissent l'équipe savent qu'on va le prendre en rigolant, mais je préfère le préciser, c'est qu'effectivement, il y a une ambiguïté voulue, c'est que c'est un anti-héros mafieux d'origine maghrébine dans le cas présent, mais c'est pas du tout une attaque par rapport à ça. D'ailleurs, la complexité du récit est liée à cette ambiguïté comment sont vus ces personnages.
Voilà, on n'est pas effectivement du tout dans un récit binaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça. Comme l'est aussi la relation entre lui et sa femme Elena, blonde, elle a un vrai côté slave, elle a un passé mystérieux.
Oui.
Aussi, vous avez joué sur une forme de contraste graphique entre ces deux personnages-là, Hervé Tancrel.
Oui, on le fait plus ou moins consciemment, mais effectivement, je cherchais un personnage assez simple, assez sobre physiquement, finalement qui dégage peu d'émotions. Mais finalement, au fur et à mesure, elle en dégage aussi, hein, puisque elle est forcément humaine. Mais je voulais qu'elle ait un visage très fermé au départ, voilà. Et effectivement, on va jouer sur des contrastes entre Ismaël, qui a les cheveux très bruns, même s'il a les tempes blanches pour le coup, ce qui lui donne un côté un peu sage, voilà. Et Elena, ce côté un peu filiforme.
Ouais. Et vous allez, j'imagine, développer ce personnage dans les deux tomes suivants. Fabien Wellman, parce que là, elle apparaît relativement peu, à des moments clés du récit. On sent effectivement le mystère, cette relation vraiment très particulière qu'il y a entre les deux personnages. Et on se dit, bon, bah, il y a des petits secrets, il y a des petites choses qui vont apparaître par la suite.
Bien sûr, on joue vraiment sur les codes de la série, du feuilleton, où on plante certains éléments qu'on va développer par la suite. Là, c'est un bon exemple pour répondre à la question tout à l'heure, du fait que quand on l'a vu graphiquement, Elena, de même que quand on a vu certains des bras droits, par exemple, de Ismaël, comme David et Hamid, on s'est dit, waouh, ils existent tellement qu'on va les développer. Donc ça, voilà un exemple d'improvisation au fur et à mesure de l'écriture. C'est des personnages qui ont pris plus de place. Et effectivement, ça répond à une autre question, qui est celle de la sous-représentation féminine au début de cet album, qui est un problème parce que, toute notre équipe se veut féministe et en même temps on parlait d'un sujet très particulier qui est quand même un robot géant qui est censé ressembler un peu à ce qu'était l'armée dans les années 70. On peut pas dire qu'il y ait énormément de femmes dans un équipage, par exemple, de sous-marins nucléaires.
Il fallait quand même que ce soit crédible, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Exactement. Évidemment. Mais les personnages féminins sont quand même très présents. On va parler d'un journaliste dans un instant.
Exactement. Hein. Et ils vont être de plus en plus présents, c'est ça que je voulais dire.
Voilà. Mais restons sur la pègre nantaise, pour commencer, puisque c'est la fameuse pègre nantaise dont vous faites pas partie, j'imagine.
On peut pas le dire à l'antenne.
Voilà, évidemment. Donc Taïeb, hein, il fait partie effectivement de ce réseau-là. Au-dessus de lui, il y a le gros. Et puis il y a Dieu le Père. Alors Dieu le Père, c'est le surnom de Jean Le Goff. Alors lui, c'est quand même un parrain d'une envergure tout autre, Fabien Wellman. Hein.
Oui,
c'est
tout
pas
à
une
fait.
Petite phrase plus.
Tout à fait. Ce qui était intéressant, c'est qu'on voulait que Ismaël Taïeb représente. Bon, c'est un mafieux nantais, mais qu'on puisse quand même s'attacher à lui d'une certaine manière, même s'il est très ambigu. On le voit en cours de récit. Hein. Il fait des choses qui sont parfois assez affreuses, mais il est animé d'une espèce d'idéal. On finit par le comprendre. Le Goff, c'est vraiment le
vrai salaud.
C'est le vrai salopard. C'est un salopard un peu sur le retour, dans le sens où on sent qu'il est en exil en Algérie, qu'il ne peut plus revenir en France. Et au début du premier tome, il revient en France sans prévenir son équipe, alors qu'il est recherché par la police. Et justement, une des premières scènes d'action, c'est que Ismaël doit l'exfiltrer en urgence.
Bah justement, vous me faites la transition, parce que c'est précisément l'extrait de l'album que notre réalisateur Michael Goncalves a mis en onde. Donc il se trouve dans une boîte de nuit, et c'est de cette boîte de nuit-là qu'Ismaël Taïeb doit exfiltrer Dieu le Père, qu'on sait d'ailleurs sous la surveillance des flics. Nous sommes page 31 de votre album, début du chapitre 2.
Bœuf pour le gros, vous devez partir, il y a des flics partout.
Des flics? Où ça? Mais oui, je reconnais leur gueule de con.
Préparez-vous à intervenir, on a peut-être été repérés.
Les condés, je leur chie dessus, je suis chez moi ici. Putain mais...
Lâchez ça je vous dis. Ils sont plus nombreux que vous ne pensez, et si vous tirez, on y passe tous.
Ah, tu m'as pété le doigt, connard.
C'est qui ce mec?
Qu'est-ce qu'il fout?
Derrière vous, il y a une sortie de secours. Alors, on se lève et on sort.
C'est à joie nous de décider si c'est jouable sans risque pour les clients.
Je crois qu'il va tenter le coup.
Équipe 2 et 3.
3.
On les a perdus, il devait y avoir une sortie côté sud. Ils risquent de passer chez vous. Merde ! À toutes les unités, ici équipe 2, une Cherokee noire vient de passer devant nous. Elle remonte la N444 à contresens.
Prochain virage, la maison aux volets rouges. Vous y resterez, jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher.
Merde, merde, merde!
Y a pas moyen qu'ils nous échappent, les collègues ont posté des barrages partout. Ok, ok, je m'arrête.
Ouais, et là on a entendu Ismaël avaler quelques bonnes rasades de vodka pour pouvoir expliquer aux policiers qu'il était en état d'ivresse et s'en sortir pas trop mal. Alors on l'a compris, Bettencrel, scène de course-poursuite, scène de rodéo en voiture, un peu comme dans les films de genre, on installe tout de suite un rythme, on est dans le chapitre 2 de la BD, ça démarre au sens propre sur les chapeaux de roue, il y a des onomatopées en pagaille dans ces pages-là, il y a ce qu'on appelle je crois les traits de vitesse. En fait, on est dans une série américaine. Dans une bonne vieille série américaine.
Dans une bande dessinée.
aussi, mais les codes sont les mêmes.
Oui, les codes sont les mêmes, les traits de vitesse. Là, c'est vrai que pour les courses de voiture, on est obligé de les utiliser, même si j'en utilise beaucoup moins pour cet album, justement parce que j'ai un dessin réaliste. Je trouve que cette grammaire qui vient, notamment d'Hergé, toutes ces choses que j'utilise moi beaucoup dans mes autres albums, là, je l'ai moins utilisé. Mais effectivement, là, il faut quelque chose d'extrêmement dynamique. Et là, j'en viens à parler justement de Fred Blanchard, qui supervise mon découpage. J'avais très envie que quelqu'un qui vient d'une autre forme de bande dessinée que la mienne est un regard comme ça sur justement sur ce côté sur cette dynamique que j'ai pas forcément moi je viens de l'école Hergé. Oui. Et même si Tintin c'est dynamique, c'est pas forcément la même course-poursuite en voiture chez Tintin que dans un comics américain ou dans un polar quoi. Et donc Fred m'apporte vraiment ce petit plus dans mon découpage, il va recréer quelque chose d'un peu plus tenu que j'aime beaucoup pour le coup quoi.
Bon, mais qu'on s'y trompe pas parce que l'ambiance va quand même très très vite changer et c'est là aussi que la lecture est assez excitante parce que on change de personnage très régulièrement, il y en a beaucoup, il y en a d'autres qu'on n'a pas encore évoqué mais on va y venir. On change de décor aussi, on va quitter Nantes pour le Sahara algérien, pour l'Inde, il y a des paysages urbains et des paysages désertiques, il y a des intérieurs, des extérieurs, il y a des aéroports, il y a des personnages d'apparence physique extrêmement variés, il y a un bestiaire extrêmement diversifié aussi dans cet album. Hervé Tancrel, vous vous êtes fait plaisir.
Oui, ça je peux pas dire le contraire.
Beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi.
Comme pour un album d'Astérix, comme disait l'autre.
Oui.
Mais moi je me fais toujours plaisir de toute façon à rentrer dans des univers comme ça. Et là pour le coup, en plus le scénario est aux petits oignons, c'est super bien travaillé. J'ai des personnages, j'ai une palette de personnages qui est fascinante à travailler. Même parfois des personnages qui vont apparaître que sur deux pages. Mais voilà, moi je pousse le vice à même penser à ce qu'ils sont, à ce qu'ils étaient avant pour vraiment leur donner cette crédibilité. Et puis effectivement même les robots c'est assez fascinant.
Alors,
à dessiner.
Justement les robots, les Atlas hein, puisque c'est une série de robots, le dernier Atlas hein, c'est le titre de l'album puisqu'il n'en reste qu'un hein. Il est en train de rouiller en Inde lorsque démarre l'histoire. C'est donc un robot géant construit près de Nantes dans les célèbres chantiers navals de Saint-Nazaire, et vous nous racontez Fabien Velman l'histoire de ces robots, de ces géants constructeurs. Alors là c'est incroyable parce que c'est extrêmement crédible et je me suis dit tiens, là, on n'est plus dans l'histoire inventée, on est dans l'histoire vraie, on est dans le récit historique. Et puis bon, il y a Internet maintenant, donc je suis allé vérifier, j'ai cherché, et ben vous m'avez berné. En fait, tout ça, c'est faux, Fabien Velman.
Ah bon, vous avez mal cherché.
Ah bon, mais, c'est faux, mais vraisemblable, quoi.
Voilà, en fait, c'est secret défense.
C'est ça, tout est là, c'est que c'est faux, mais vraisemblable. En fait, on est parti d'un constat, c'est que une des choses qui nous agace le plus, alors qu'on est des amateurs de genre, c'est à quel point, dans les récits de genre, style robot géant, très vite, on s'affranchit de toute crédibilité, et on présente le réel d'une manière qui est sursimplifiée, et qui est un peu insultante pour l'intellect, parce qu'on finit par se dire, oui, mais du coup, c'est le théâtre de Guignol, qu'on n'y croit plus du tout. Or, l'intérêt d'un récit de science-fiction ou de n'importe quel récit, c'est de parler de maintenant. Même si on se projette 100 ans plus tard, ce qui n'est pas le cas ici, on est censé être en 2018, on doit parler de ce qui nous entoure, sinon il n'y a pas d'intérêt à écrire, quoi. Donc ce qu'on voulait avec Gwen, et, mais c'est vrai de chacun des détails, de chaque étape, c'est qu'on puisse se dire, voilà ce qu'on présente au lecteur, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais en termes de boulot caché, il y a une partie bien plus importante que qu'on n'est pas obligé de présenter au lecteur et aux lectrices, mais qui va stabiliser le récit. Un exemple typique, c'est pour ces robots géants. Je me suis simplement demandé, bon, qu'est-ce qui serait crédible comme type de construction ou de dynamique de, d'équipage par rapport à un robot géant. Ben, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui serait le plus proche de ça? C'est un sous-marin nucléaire, parce que ça fonctionne le nucléaire, c'est puissant. Le nucléaire et De Gaulle, c'est parfait.
Voilà.
Donc, je suis allé interviewer des sous-mariniers nucléaires, ni une ni deux. Et il s'avère que, en majorité, si on présente les choses de manière un peu bienveillante et amicale, un ancien militaire peut tout à fait avoir envie de participer à un projet comme ça.
Donc, j'en, ravi de parler.
J'en cite un certain nombre à la fin de l'album que je remercie, et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens. Je vais donner un exemple de ça. J'ai assisté à une AG d'anciens sous-mariniers nucléaires. Ils étaient en train de discuter du fait qu'il fallait refaire une plaque commémorative. Je me suis inspiré de ces dialogues pour une scène du tome 1 où on voit des anciens d'un équipage Atlas en train de dire « Oulala, ça coûte quand même vraiment cher de refaire une plaque commémorative des Atlas ». Donc ça sonne vrai. Parce que je l'ai entendu. Et ça, c'est un détail parmi d'autres, de même que Hervé va chercher des trônes qu'il a vus dans la rue pour n'importe quel rôle secondaire. Ce souci du détail, au service de quelque chose qui doit être divertissant et simple à lire et fluide, je crois que c'est ce qui fait qu'on croit au récit. Et qui paraît vraisemblable, alors même qu'on parle quand même, ne déconnons pas, de robots géants de 40 mètres qui n'existent pas.
Qui n'existent pas. Les Atlas n'ont jamais existé.
C'est ça.
C'est peut-être une petite déception quand même.
Je suis d'accord.
Parce que j'aurais préféré quand même qu'ils existent.
Hein, peut-être que le président Macron va s'emparer de cette opportunité de faire briller la France à l'étranger.
L'idée est lancée. Et en tout cas, quelqu'un qui était passionné par les Atlas, c'est votre personnage, c'est Ismaël. Quand il était gamin, il lisait justement les aventures de ces robots géants. Et il faut dire que les gamins, mais pas seulement les gamins, et les gamins qui ont vieilli aussi un peu, ont toujours été fascinés par les robots, que ce soit en BD, au cinéma ou à la télé. Les robots géants qui ont largement infusé la culture mondiale, comme nous le rappelle Amélie Beaucourt.
C'est sans doute lui le plus connu, Goldorak, une machine haute de 30 mètres qui a fait rêver les enfants des années 70. Scotchés à leur téléviseur, ils regardaient leur héros sauver la Terre des envahisseurs, plein d'étoiles dans les yeux. Avant d'être adapté en dessin animé, Goldorak est un personnage de manga dessiné par Kiyoshi Nagai. Et dans l'univers du manga, des robots, il y en a plein. Un sous-genre de la bande dessinée japonaise leur est d'ailleurs consacré, ça s'appelle le mecha manga. Et la série Mazinger Z, ce titan qui cherche à anéantir les forces du mal, créée par le même auteur que Goldorak, en fait partie.
Ce sera la dernière bataille de Mazinger. Mazinger, go !
Le robot n'est pas toujours un géant en armure qui découpe ses ennemis au laser d'un regard. Chez Miyazaki, le cinéaste japonais, le robot est plutôt un compagnon, un peu fleur bleue. Dans son film Le Château dans le ciel, il met en scène un colosse mécanique, programmé pour protéger une princesse. Mais il n'a rien d'un monstre, bien au contraire. Il observe le spectateur avec des yeux tout ronds, se baisse pour cueillir des fleurs et siffle avec les oiseaux. Pourtant, c'est un autre robot, français cette fois, qui a influencé Miyazaki. En 1980, Paul Grimaud adapte en dessin animé Le Roi et l'Oiseau, un scénario de Jacques Prévert. Pour prouver sa toute-puissance, le roi construit un gigantesque automate, mais son pire ennemi, un oiseau très malicieux, en prend les commandes et le transforme en engin destructeur qui doit démolir le royaume. Les robots sont aussi de bons personnages de romans. L'un des plus connus est né sous la plume de l'écrivain britannique Ted Hughes. Il s'appelle le géant de fer et a été envoyé sur Terre pour anéantir toute vie humaine. Mais suite à un choc à la tête, cette machine de guerre devient inoffensive et se lie d'amitié avec un petit garçon. Son histoire est adaptée au cinéma par l'américain Brad Bird. Elle se déroule aux États-Unis dans les années 50, en pleine paranoïa anticommuniste.
Pas de quoi vous voulez parler.
Ton géant de fer, tu le trouves marrant, hein? Mais qui l'a fabriqué? Les Russes? Les Chinois? Les Martiens? Je veux pas le savoir! Tu vas me dire tout ce que tu sais sur ce machin! Tu vas me conduire à lui! Et nous allons le détruire!
On va leur montrer que tu es gentil! Tu es celui que tu choisis de devenir!
D'Iron Man à Transformers en passant par les Indestructibles, parfois monstres gentils, parfois machines destructrices, nos amis les robots n'ont pas fini de s'inviter et de se réinventer sur nos écrans, dans nos livres et même derrière nos platines.
Voilà, les Daft Punk de la BD sont donc avec nous, j'ai nommé Hervé Tancrel et Fabien Velman. Vous êtes nourris là tous les deux des références qu'on a entendues pour bâtir cet album?
Tous les quatre, parce que par exemple le look actuel du robot qui a donc été designé par Fred Blanchard, Fred n'a pas de problème à dire que quelque chose comme le géant de fer de Brad Bird a joué d'une certaine manière, avec des différences notables quand on parle de Goldorak par exemple. C'est en particulier le fait que dans notre robot il y a un équipage. C'est une petite différence, ça change pas grand chose on pourrait croire, mais symboliquement énormément. Goldorak, il est piloté par, je sais plus si c'est Actarus ou je ne sais quoi.
Oui, Actarus, oui, bien sûr.
Voilà.
Attendez, c'est votre génération. Bah, en plus,
et de fait, c'est pour ça qu'on voulait le citer. Ça et les albums Panini qu'on cite justement dans la BD. Tout ça, c'est effectivement une génération des années 70. Le fait qu'au lieu d'avoir un pilote tout seul qui pilote son énorme robot, le fait que nous, ce soit un équipage, déjà, ça dit quelque chose d'une certaine vision du monde, de la crédibilité. Un sous-marin nucléaire, il n'y a pas juste Actarus aux commandes. Il y a même 60 personnes. Le roi et l'oiseau, bien entendu, puisqu'on le cite graphiquement dans le bouquin.
Il y a un petit clin d'œil,
de même que Goldorak apparaît effectivement derrière dans un bar, hein, une sorte de figurine de Goldorak. Tout ça, ça fait partie de notre génération. En fait, ce qu'on voulait, entre autres, hein, c'est que des lecteurs, bon, un peu de nos âges, disons, puissent se dire, tiens, c'est marrant, il y a des références à des choses des années 70, 80 qui nous parlent, comme une forme de nostalgie, de quelque chose de passé. Et cette nostalgie-là, c'est pas juste un clin d'œil à des quarantenaires, c'est aussi parce que c'est une partie de l'atmosphère de ce bouquin. On est en train de parler d'une grandeur de la France qui a disparu, qui peut-être n'a jamais complètement existé d'ailleurs, puisque ces atlas, on le disait dans notre chronie, ont été fabriqués grosso modo pendant les Trente Glorieuses, et puis ont participé aux événements d'Algérie, la guerre d'Algérie, qu'on décale d'une quinzaine d'années dans notre chronie. Et il y a eu un accident nucléaire lié à un de ces atlas, à Batna. Et suite à cet accident nucléaire, la guerre a été arrêtée, l'indépendance algérienne a été déclarée, et les atlas ont été envoyés en Inde pour être démantelés, ce qui est un clin d'œil assez prononcé à ce qui a failli arriver au Clémenceau, si on s'en rappelle, en suivant un peu les news à une époque, qui devait être démantelé en Inde, alors qu'il y avait des gros problèmes qui se posaient autour, je crois, de l'amiante dans le cas du Clémenceau. Donc le fait que on montre que le dernier atlas encore en place, il est en train de pourrir dans une décharge en Inde, c'est aussi une manière de parler de la mondialisation et de la complexité du monde.
Alors, juste une curiosité avant d'en venir à l'Inde précisément et à cette équipe atlas que vous décriviez tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous l'avez appelé George Sand, ce robot-là? Parce que, bon, je suis allé vérifier sur les photos d'époque, la ressemblance est quand même pas si flagrante que ça. Hervé Tancrel, pourquoi George Sand?
Ah ben là, je suis désolé, je vais avoir du mal à répondre, parce que c'est plus, je pense, Fabien et Gwen qui sont derrière ce nom et ce prénom. Et
il faut qu'il assume.
Cette écrivaine célèbre. Mais voilà.
Parce que c'est pas n'importe qui, quand même, George Sand dans la littérature.
Non, mais en fait, ce qu'on imaginait, qui représentait, avec Gwen, qui représentait bien l'esprit de De Gaulle, s'il avait dû créer des robots géants de 40 mètres qui fonctionnent au nucléaire, c'est qu'il veuille en faire des phares de la culture française à travers le monde. Donc à partir de là, au lieu de l'appeler juste l'effroyable, ce qui, au demeurant, est le nom vraiment d'un sous-marin nucléaire, ce qui fait un peu froid dans l'eau, on s'est dit pourquoi pas les appeler le Victor Hugo, le Dumas, et qu'au milieu, ils se sentent un peu obligés de mettre une femme, et que ce soit le George Sand, et que ça, on va l'expliquer.
C'est une femme habillée en homme aussi.
C'est une femme, donc ça passe encore, voilà. Et que justement, on parle un peu de ce qu'est cette France-là, c'est-à-dire une France qui va avoir du mal à trouver une femme écrivain, et qu'ensuite ça puisse poser des problèmes, ce qu'on ne dit pas encore beaucoup, mais on en reparlera par la suite, pour qui va être à bord du George Sand, un peu comme on sait qu'il y a des coutumes sur les bateaux qui consiste à ne pas emporter de lapins à bord, mais aussi parfois de femmes. On s'est dit, pourquoi pas dans ce corps militaire, des équipages de George Sand, pourquoi pas des équipages d'Atlas, pourquoi pas imaginer qu'il y ait eu des militaires réticents à monter à bord d'un robot qui s'appelle le George Sand. Et que du coup, l'équipage qui aborde ce robot, il est particulier. D'ailleurs, il y a une femme à bord, ce qui sera un des rares contre-exemples qu'on va donner. C'est déjà dire quelque chose de ce robot. On en revient à cette partie immergée de l'iceberg. C'est que si nous, on sait ça avec Gwen ou avec le reste de l'équipe, peut-être que le lecteur en percevra des petits échos, et puis il y a des choses qu'on va expliquer par la suite.
Alors Hervé Tancrel, à quoi ressemble-t-il George Sand, ou à quoi ressemble-t-elle George Sand? Je sais même plus comment il faut le dire, alors du coup.
Le robot
alors, est plutôt Sand. Viril quand même. Hein.
C'est un robot assez costaud, parce que c'est un robot de chantier. En fait, c'est Fred Blanchard donc, qui a créé les designs, c'est pas moi qui l'ai dessiné à la base. Et je sais que Fred, lui, alors ne supporte pas les robots japonais, les mechas, il trouve que c'est même une ineptie de faire ça, et notamment ça aurait été une psys faire ça sur, justement, sur une histoire française. Donc il a vraiment travaillé ce robot dans un, dans, en, en s'inspirant de ce qui se faisait dans les années 60-70 en France, même 50 pour le coup, et notamment de tout ce que lui a connu, puisqu'il avait un oncle qui était pilote, et donc il allait parfois dans d'hélicoptères, il allait dans les hangars justement, il voyait les cockpits comme ça d'hélicoptères, et donc il a travaillé vraiment d'une manière très crédible, et donc on a un robot, alors on l'a quand même forcé, un peu obligé Fred à lui donner cet aspect humain, légèrement humain, puisqu'il a une sorte de tête, mais c'est une tête finalement, c'est un radar, donc il n'y a pas, le contrairement à beaucoup de robots, le pilote n'est pas dans la tête, il est au niveau du ventre, pour pouvoir justement, puisque c'est un engin de chantier, avoir une vision très large de ce qui se passe. Quoi.
Alors, comment faire bouger ce robot qui est donc en train de rouiller en Inde à Bombay? C'est l'un des suspens de l'album, et Ismaël Taïeb va donc s'adresser aux anciens, à ce fameux équipage Atlas que vous évoquiez il y a un instant, Fabien Velman, et notamment à un ingénieur qui s'appelle Roland Fabre. Alors Roland Fabre, c'est un personnage pas très sympathique,
non.
Hein, vu son passé, notamment Fabien Velman.
Non, effectivement, parce qu'on veut montrer toute l'ambiguïté de ce que peut être l'histoire de France. Et dans le cas présent, si on parle des événements en Algérie ou la guerre d'Algérie, on peut pas faire abstraction de ce qu'a été l'OS et des attentats qui ont été commis même au-delà de la guerre. Donc montrer qu'il y a d'anciens membres d'équipage d'un autre Atlas, d'ailleurs, soit en passant, qui était le Victor Hugo, qui ait pu être sympathisant de l'OS, c'est simplement crédible. Et une fois de plus, la question, c'est d'arriver à représenter cette France-là sans tout de suite être dans des jugements de valeur qui consisteraient à dire salopard 2 ou héros qui, mais simplement de dire bon, il y en a qui sont comme ça, il y a des personnes qui ont pensé ça. Ismaël, c'est l'exemple type, je le disais en plaisantant tout à l'heure, il se trouve qu'on en a fait un mafieux, mais c'est d'abord un gamin qui est né en France mais de parents d'origine algérienne et qui a été qui a subi un racisme dès le début, au point d'ailleurs qu'on le voit se faire casser la gueule dans un flashback par des chefs de chantier qui le traite de bico. Et qu'est-ce que ça fait à un gamin de vivre dans cette France-là? Et on sait que la France a aussi connu ce racisme-là. Donc montrer l'ambiguïté du personnage, sa profondeur, mais aussi ses failles, parce que c'est pas parce que c'est un héros, comme vous le disiez, un anti-héros, que justement on doit faire abstraction de cette complexité.
Oui,
tout ça, c'est ce qui nous passionne.
Mais alors pour Roland Fabre, les choses sont quand même beaucoup moins ambiguës que pour Ismaël.
De prime abord.
On va être surpris alors dans les tops suivants.
En tout cas, c'est un personnage qui est complexe, qui est profond. Oui. Et c'est pas parce que je vais l'étiqueter OAS que, par exemple, je vais dire, bon, allez, c'est un méchant. Je déteste parler en termes de méchant gentil.
Oui.
Je veux simplement dire, il est complexe, il représente une partie de la France.
Alors, je vais renvoyer la balle à Hervé Tancrel, parce que là, quand même, quand on regarde à quoi il ressemble, il y a ces petits yeux verts un peu vicieux, hein, c'est ses cheveux tout blancs, son visage émacié, il a quand même pas un visage extrêmement avenant. Est-ce que il fallait que, eh bien, c'est-à-dire ces idées qui n'étaient pas forcément, à partir du moment où il était à l'OAS, qui donc ne condamnait pas et qui était même prêt à utiliser une certaine forme de violence.
Forme de violence.
Voilà, pour pas dire plus, au nom effectivement d'un idéal, il devait les porter finalement sur son visage.
Alors, non, en fait, moi j'ai surtout voulu qu'il ait une allure martiale, qu'on sente que c'était vraiment un homme qui venait de là, quoi, un militaire pur et dur.
Assez sec en plus.
J'avais pas tous les tenants et les aboutissants sur son caractère. Je sais même pas si à l'époque j'avais bien compris qu'il était qu'il avait des liens avec l'OAS. Mmh. Donc c'était, alors effectivement, pour moi c'est un mélange entre Clint Eastwood et Beckett. Alors Beckett n'a rien à voir
avec... Il y a un petit côté Beckett, effectivement, physiquement, je parle.
Physiquement, je voulais quelqu'un d'assez sec, un peu, une sorte d'aiglon, quoi, de un peu rapace, et très militaire, très droit dans ses bottes, et on sent tout de suite en le voyant que c'était lui le chef, voilà, de cette petite équipe de retraités, quoi.
Voilà, et puis il y a aussi donc celui qu'il appelle l'aspouille, hein, donc l'aspirant, hein, parce qu'à l'époque il avait ce grade au sein de l'armée française qui s'appelle Bloch. Alors lui, il est un peu plus rond, un peu plus chauve aussi, c'est pas Laurel et Hardy, mais il y a aussi cette dimension complémentarité, hein, finalement, dans le physique de vos personnages.
C'est toujours le principe. Et puis la spouille, voilà, c'était le plus jeune dans les années 70. On voit d'ailleurs, si on regarde bien, on voit sa tête quand il a 20 balais. Et puis on le retrouve donc un peu moins âgé que les autres, pour le coup, avec cette petite tête ronde, ces cheveux qui lui manquent. C'est le petit retraité, voilà, qu'on va croiser dans la rue, et sans savoir qu'en fait il a un passé quand même assez glorieux, puisqu'il a été dans les fameux robots géants, quoi.
Et d'ailleurs, quand on parle de Clint Eastwood, je reconnais que moi j'avais été marqué, que j'avais en tête, j'avais été marqué par un film comme Space Cowboys, où il y a ce côté reconstitution d'un ancien équipage d'anciens, dont certains ont fait autre chose depuis. Moi, j'adore ce genre de structure. C'est pour ça qu'un des trucs qui est très amusant à faire sur une série comme ça, c'est de préserver la complexité du réel et d'essayer de faire en sorte que tout soit crédible, mais quand même aussi tout le temps de penser au plaisir du lecteur. Moi, quand je vais voir Space Cowboys, je passe un très bon moment au cinéma. C'est un bon Eastwood. Ben, j'aimerais bien que quelqu'un qui prenne le dernier atlas puisse se dire ça. Genre, je passe un bon moment et il se trouve que derrière, ça me dit quelque chose du réel. Ça, ça serait parfait.
Tassili, extrait du cinquième album du groupe berbère Tinariwen. Tassili, comme ce parc, est aujourd'hui une destination incontournable quand on s'aventure à faire du tourisme dans le sud de l'Algérie, qui est aussi une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO, un des plus importants parcs nationaux au monde, inscrit au patrimoine mondial. Et c'est là, Hervé Tancrel, que démarre l'album. Alors décrivez-nous cette première planche, là, au début du chapitre 1, qui est une sorte, en fait, de prologue de l'histoire. À vous installer tout de suite. Une atmosphère étrange et même inquiétante.
Oui, on dézoome, on commence sur une mouche qui est un insecte finalement qui est tout de suite relié à quelque chose sur la putréfaction ou la mort ou ce genre de choses là, pour ensuite arriver sur ce qu'on pourrait prendre au départ pour un œuf sur le plat, mais qui est un œil. Et puis ensuite, bon, voilà, sur le fameux marabout, ces oiseaux qui sont assez inquiétants d'ailleurs, que moi je trouve assez fascinant.
Ce long bec pointu.
Oui, qui sont assez morbides aussi comme oiseaux. Et puis on voit qu'il est quand même pas en très bon état. Et puis d'un coup, on voit cette grande image avec tout un tas d'autres oiseaux qui ne sont pas forcément bien portants. Ce truc des mouches, je l'ai rajouté, je crois, parce que je crois qu'il était tout pas spécifié dans le scénario. Et je me suis dit, mais il y a forcément plein de mouches. On est en plein désert, en plein cagnard. Et puis des oiseaux sont en train de mourir le bec ouvert, si je sais pas si ça se dit ça.
Si, je pense.
Et donc voilà, j'ai rajouté toutes ces mouches pour donner encore plus cette ambiance inquiétante et dérangeante.
Quoi. Alors la menace écologique, c'est une des dimensions de l'histoire, pas la principale, mais elle sourd effectivement dans les pages. Vous avez d'ailleurs déjà tutoyé avec Tancrel ce genre de problématique avec votre album Groenland Vertigo, que vous avez sorti il y a deux ans chez Casterman. Seriez-vous un auteur écolo, Hervé Tancrel?
Oh ben alors oui, très certainement, et pas que moi, parce que je sais que Fabien et Gwen notamment sont très concernés aussi par tout ça là, et notamment justement le monde des oiseaux. Quand je me balade, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça risque peut-être de disparaître ou d'être de plus en plus rare de voir des oiseaux et de les entendre chanter. Donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Ouais.
Et l'écologie, c'est aussi un thème qu'on retrouve à travers le personnage principal féminin, qui là aussi est un personnage très complexe, qui s'appelle Françoise Alfort, Fabien Wellmann, et qui va faire une découverte écologique importante, une histoire de radioactivité, on va pas en dire plus. Le personnage lui-même, c'est un peu le prototype de la baroudeuse.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des personnages de journalistes et entre autres de journalistes femmes qui sont tout à fait passionnants, qui vivent des choses que je serais incapable d'aller vivre. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours d'ailleurs des codes genrés qui associeraient le courage à la virilité masculine et puis la cuisine aux femmes. Il y a plein de fois où je préfère amplement faire la cuisine plutôt que d'aller sur un territoire de guerre pour faire un reportage. On pensait à des personnages comme Obnas, par exemple, qui nous ont marqués. Et c'était une manière justement de contrebalancer un petit peu ce côté très viril du début du récit avec une nana qui a pas froid aux yeux, qui fonce, qui va chercher, qui est un peu un côté fouille merde, si je peux me permettre.
Oui, elle, oui, elle mais c'est pas c'est partie du journalisme aussi. Hein.
C'est ça qu'aime bien faire des jeux de mots foireux.
Moi, je suis gentil avec vous aujourd'hui, mais ça va changer.
Oui, c'est ça. Elle fait des jeux de mots foireux parce que elle vient d'une tradition à la Canard Enchaîné, Libération, et qui ne justifie pas tout, mais qui nous fait beaucoup rire avec Gwen en termes de jeux de mots. On adore les jeux de mots foireux. Et Hervé aussi, qui nous permet d'aborder, entre autres, effectivement, des questions environnementales. Le fait que la France ait fait des essais nucléaires en Algérie, on l'a gardé malgré notre uchronie. On va pas gommer les parties qui font un peu tâche dans l'histoire de France, au contraire. Et effectivement, avec Gwen, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. Pour nous, si on parle du monde actuel et si on parle pas d'écologie, ça serait un angle mort incompréhensible. Parce que, comme le dit Hervé, des sources d'inquiétude par rapport au monde du vivant, il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Et je crois que c'est un débat dont on doit s'emparer.
Voilà, on va pas en dire plus parce qu'il faut laisser effectivement le plaisir au lecteur. Mais ce personnage de Françoise Alfort, elle va avoir une forme de bonheur à la fin de l'album. Et ce bonheur va être entaché, ou en tout cas inquiété, par une forme de mystère.
Scénaristes, hein, ils peuvent pas s'empêcher d'inquiéter tout le monde.
Voilà. Absolument, avec le principe du cliffhanger qui donne évidemment envie au lecteur de se précipiter vers le deuxième tome qui n'est toujours pas sorti.
Bah, encore heureux, le premier n'est même pas sorti. Il vient de sortir.
Voilà, bon, alors quand même. Moi, je voudrais qu'on revienne encore une fois sur le dessin et sur les couleurs. Parce qu'on le disait tout à l'heure, donc il y a 5 auteurs qui ont travaillé sur cet album. On n'a pas encore évoqué de façon un petit peu plus longue la coloriste Laurence Croix. Elle est arrivée d'ailleurs, je crois, assez tard sur le projet avec Tancrède parce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'au départ, vous aviez l'idée de faire un album en noir et blanc, c'est vrai ?
Oui, il a été pensé noir et blanc, et puis c'est vraiment José-Louis Bocquet, notre éditeur, qui a dit non, faut vraiment que ça soit en couleur.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui collait pas dans le noir et blanc ?
Je pense qu'il avait envie, évidemment, que ça s'ouvre vers un plus large public, et le fait est que souvent la couleur permet ça, c'est comme ça. Et puis moi, j'y étais pas opposé, on n'y était pas opposé, de toute façon, au contraire. Mais par contre, il a fallu que moi je fasse un travail assez compliqué de me dire, mais je veux quoi en couleur ? Effectivement, à partir du moment où je devais me dire à Laurence ce qu'il fallait faire, j'étais un peu désemparé au tout départ. Et puis on a trouvé nos marques et Laurence est quelqu'un d'extrêmement professionnel qui a travaillé magnifiquement sur cet album.
Quoi. Avec des consignes là aussi pour les couleurs, ou vous lui avez laissé quand même le champ libre, Fabien Vellman, parce que c'est important la couleur, hein, c'est pas un détail, c'est quand même la façon dont le lecteur aussi entre à l'intérieur de l'histoire, des caractères des personnages, des différentes atmosphères qui se succèdent dans l'album.
Tout à fait, c'est un outil de narration comme il y a un directeur photo des fois sur des films, si on doit faire des parallèles, le travail de la couleur, il est là. On s'est pas trop mêlé de la couleur avec Gwen ou même peut-être avec Fred, parce qu'on savait que Hervé avait énormément de curseurs à ajuster. Je salue encore à nouveau le courage qu'il a fallu à Hervé de se lancer dans un truc aussi titanesque. C'est quand même des livres de 200 pages et chaque page, vous les verrez, jetez un œil dessus. C'est vraiment comme la qualité d'un album 46 pages franco-belge classique. C'est pas torché du tout.
Ah non.
Donc il y avait suffisamment de choses à régler pour qu'on se dise voyez ça entre vous. Et après, par contre, on donnera un avis dessus. Moi, j'avais en revanche une très grande confiance de départ, parce que j'ai déjà bossé avec Laurence, elle a travaillé sur Spirou et Fantasio à une époque, donc et le travail de coloriste, c'est un travail qui est souvent sous-estimé, alors qu'en fait c'est un travail hyper important, il arrive à la fin de la chaîne, c'est un moment qui est souvent très stressant pour les coloristes, ils doivent faire des dizaines de pages d'un seul coup avec une date de publication qui a été décidée. Laurence, pour ça, elle est épatante, entre autres, et il se trouve que ces pages nous ont convaincus très très vite.
Alors, d'un bout à l'autre de l'album, forcément, moi j'ai pensé à un film ou plutôt à une série télé, vous y avez pensé vous aussi forcément ?
Un peu, oui, quand même.
Un peu, ah voilà, ça va être adapté comme seul d'ailleurs, Fabien Vellman ?
Alors, si c'est adapté, parce que on est quand même encore loin du compte, mais si c'est adapté, ça serait plutôt une série télé, ça serait idéal. Ce qui fait qu'on y a pensé rapidement, c'est que à l'origine du projet, ça devait être une BD numérique pour le magazine Professeur Cyclope, magazine numérique, et donc ça.
Dont vous êtes d'ailleurs cofondateur.
Donc on était cofondateur avec Gwen, avec Cyril Pedrosa, avec Bruno, et en fait. On voulait qu'il y ait 20 pages par mois et qu'on garde ce côté très très haletant et feuilletonesque, et justement ça serve un peu de locomotive pour attirer des lecteurs. Il se trouve que ça n'a pas pu être fait dans Professeur Cyclope, qu'entre temps le magazine s'est arrêté, mais qu'on a gardé cet ADN qui se voulait vraiment résolument feuilletonnant. Et une fois ça fait et qu'on a relu les pages, on s'est dit, oui bon, c'est vrai que ça ressemble quand même tellement énormément à une série télé que ce serait dommage qu'on n'aille pas un peu creuser ça. Donc on a commencé un peu à en parler à des producteurs, on a des bons retours, j'ouvre la possibilité à qui entendra cette émission de réagir.
Avec Clint Eastwood dans le rôle de Fabre.
Alors pourquoi pas s'il est pas mort entre temps.
c'est pas gentil ça.
Non mais je ne sais plus exact. J'ai pas vu son dernier film. Il paraît qu'il est très bien. Donc
bon. En tout cas, on est impatient de connaître le casting parce que là, quand on parlait des trognes et des gueules de cinéma tout à l'heure au début, je pense que ça peut être effectivement très très intéressant.
Ça serait super joyeux. Portable hein, si tu veux.
Merci beaucoup à tous les deux, Fabien Vellman, Hervé Tancrel,
merci
avec
à vous.
Gwen
merci.
De Bonneval, Fred Blanfer et Laurence Croix. Le dernier Atlas, tome 1 est paru aux éditions Dupuis et le tome 2 est prévu pour
mars de l'année prochaine.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant de se quitter, direction la Corée du Sud où se tient dans la capitale une exposition étonnante qui aurait été impossible à organiser il y a seulement un an. Des dessins, des affiches de propagande, mais aussi des tickets, emballages et autres étiquettes de produits de la vie quotidienne venus de Corée du Nord. L'exposition s'appelle Made in Chosun, traduction fabriquée en Corée du Nord. Elle cherche à aborder la Corée du Nord par son angle graphique en exposant des designs et des graphismes venus de ce pays extrêmement fermé. Son créateur est Nicolas Bonner, un réalisateur britannique qui a déjà signé de nombreux documentaire remarqué dans son pays. Reportage à Séoul de Frédéric Ojardias.
Des posters de propagande, mais aussi des timbres, des bandes dessinées, des paquets de cigarettes, des boîtes de conserve ou de chocolat. Ce sont 200 objets, parfois très simples, que présente à Séoul le réalisateur Nicolas Bonner.
C'est une collection qui s'intéresse au design d'objets de la vie quotidienne en Corée du Nord. En fait, ce sont des choses que j'ai dénichées au cours de mes 25 années de voyage là-bas et que j'ai fourrées dans mes poches parce que leur esthétique me plaisait. La pièce la plus significative pour moi, c'est l'une des premières que j'ai gardées. Un sachet de sucre en poudre distribué dans un avion. Comme il vient d'un pays socialiste, on s'attendrait à trouver un simple sachet blanc avec le mot sucre imprimé dessus. Mais en fait, c'est un objet décoré avec beaucoup de finesse, avec même une sorte de frivolité à laquelle on ne s'attend pas en Corée du Nord. Ce n'est pas un pays connu pour sa frivolité. Et pourtant, il y a là-bas un artiste qui comprend le design et qui a conçu ce sachet. C'est comme ça que ma collection a commencé.
Les artistes et les designers nord-coréens sont formés dans les universités nationales, puis employés dans des studios d'État. Un millier travaille dans le plus célèbre, baptisé Mansudae. Si en Corée du Nord, l'art est sous le contrôle de l'État, le design de certains produits ouvre des espaces de créativité inattendus.
Il n'y a pas d'art abstrait en Corée du Nord. Ce n'est pas autorisé. Tout doit répondre aux critères du réalisme socialiste. Mais je me souviens de ce paquet de sucreries. On y voyait, sur l'emballage, des motifs réguliers, d'un design très abstrait. Mon guide m'a dit que c'était en fait les lignes de sucre colorées sur le bonbon. C'était plutôt joli. L'art de propagande n'a en général aucune personnalité. Mais le graphisme des produits éphémères est différent, même s'il est aussi sous contrôle, bien sûr. Si vous avez une usine de chocolat et que vous produisez vos propres emballages, ceux-ci doivent être approuvés. Tout doit être validé par les organisations de l'État. Et pourtant, ces graphismes ont quelque chose de très humain, sans doute parce que ce sont des produits faits pour le peuple.
Cette exposition aurait été impossible à organiser à Séoul avant la détente intercoréenne initiée l'année dernière. L'importation au sud de produits venus du nord est très contrôlée, souvent interdite. Les Sud-Coréens n'ont en général jamais accès à des objets ou des documents nord-coréens, ce qui rend l'événement d'autant plus significatif.
J'ai lu des réactions en ligne à l'exposition et quand je les ai montrées à une amie nord-coréenne, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, c'est si bien, c'est la première fois que je peux voir une sorte de connexion émotionnelle entre les gens des deux Corées. Cette exposition aide ainsi à rappeler que de l'autre côté de la frontière, il y a aussi des gens qui vivent. Ce n'est pas qu'un système. La plupart des visiteurs ici ont laissé des commentaires remarquables. Des jeunes disent que ça leur a offert un aperçu inédit sur la Corée du Nord. Il n'y a encore pas très longtemps, les Coréens du Nord et du Sud de ma génération, je suis né en 1961, se présentaient les uns et les autres comme des diables, des vrais diables avec des cornes sur la tête. Les choses s'améliorent peu à peu et j'espère que ça va continuer.
Reportage de Frédéric Ojardias dans un instant. L'info sur RFI, on se retrouve demain avec DJ Arafat pour son dernier album Renaissance chez Universal et vous m'en direz des nouvelles.